Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Il reste des places devant, si vous le souhaitez, sur la gauche, pour les personnes qui viennent d'arriver. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Mathieu, Américo et Leïla du collectif Asphalt, qui viennent nous présenter « Tenir la ville, lutte et résistance contre le capitalisme urbain », paru aux Étacs il y a peu. Et voilà, on va les écouter. Juste pour, avant de leur laisser la parole, vous prévenir que les rencontres sont enregistrées, elles sont montées ensuite, elles sont diffusées sur Canal Sud. Et on les met aussi en ligne sur notre site internet. Donc juste pour vous prévenir que l'amplification, c'est aussi pour l'enregistrement. Et du coup, quand il y aura le moment des questions, on fait passer le micro, c'est pour que les questions soient aussi audibles. Après, c'est aussi possible de prendre la parole hors micro. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'introduire un petit peu ce qu'on va essayer de présenter ce soir autour de cet ouvrage, en disant qu'on va le faire un peu en trois points et demi. Donc je vais commencer par parler du pourquoi on a fait ce livre, comment on s'est retrouvé là finalement. Ensuite je passerai la parole à Américo qui expliquera comment on l'a fabriqué, qui dressera aussi quelques grandes lignes qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans ce livre, parce que j'imagine que ce qui vous intéresse aussi c'est ce qui peut s'y trouver. Et puis on donnera ensuite la parole à Leïla pour aller un peu plus loin sur quelques aspects de ce qu'on peut trouver dans cet ouvrage, en particulier à partir du chapitre que tu as rédigé. Alors pourquoi le livre ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ce qu'on appelle nous la production de l'espace ou de l'espace plus globalement ? Alors le premier constat, c'est que l'espace, c'est un sujet central dans nos existences. Hein, ça va rythmer nos rythmes de vie. Ça va avoir évidemment des incidences fortes sur nos capacités économiques. Hein, tout le monde ici doit probablement essayer de se loger, galérer plus ou moins à le faire, plus ou moins à louer, ce qui va déterminer où on peut se loger, où est-ce qu'on a accès à un logement qu'on peut louer, un accès à un logement éventuellement qu'on peut acheter. Ça va aussi déterminer les rythmes de nos existences, c'est-à-dire à quel moment je me déplace pour aller faire telle ou telle activité, quelle distance me sépare d'un autre lieu. Enfin, ça va scander vraiment nos journées et puis les endroits auxquels on va pouvoir avoir accès pour se loger, ou les espaces dans lesquels on va vivre pour faire d'autres activités, parce qu'on ne fait pas que dormir ou se loger, vont aussi avoir un effet sur la qualité de ces espaces-là. Est-ce qu'on habite dans un espace plus ou moins végétalisé, aéré, agréable, plus ou moins sous pression ? Enfin bref, l'espace est un petit peu partout dans nos existences, c'est un sujet assez central de nos vies, mais c'est un sujet qui est relativement laissé de côté politiquement. En fait, c'est un peu cette idée. Alors, c'est un peu laissé de poser de côté politiquement. Je vais prendre un exemple avec quelque chose qui peut montrer à quel point c'est central et à quel point ça n'a pas forcément été pris en compte de cette manière-là. Donc, on peut prendre la question des mouvements sociaux d'abord, avec par exemple un mouvement assez singulier d'il y a quelques années qui était le mouvement des Gilets jaunes, où on a un mouvement qui débarre sur la question de l'argent, des problématiques qui sont posées par la dépendance à l'automobile. Donc ça démarre sur la question du prix de l'essence, qui est directement une question spatiale, parce que si la question du prix de l'essence est aussi importante pour les personnes qui vont se mobiliser, c'est parce que ça leur coûte extrêmement cher d'avoir à se déplacer, ce qui est conditionné pas mal par les endroits où on a pu aller se loger, où on a pu aller habiter. Beaucoup de personnes dans les mouvements des Gilets jaunes, c'est des personnes qui sont allées vivre dans ce qu'on appelle le périurbain. Donc ils sont allés vivre à assez grande distance des villes, à des endroits où en fait on est un peu contraint, on est un peu obligé d'avoir recours à l'automobile pour se déplacer. Et puis c'est des personnes qui vont aussi avoir la voiture qui est assez centrale dans leur existence, parce que beaucoup les femmes vont travailler dans ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du care, donc aller d'une personne à un autre, d'un client à un autre en automobile. Beaucoup les hommes vont travailler dans la logistique, et donc il faut se rendre à l'entrepôt où on va être livreur, on fait des métiers de la route. Donc, cette question de l'espace, elle est assez centrale dans ce qui démarre la mobilisation. On la retrouve aussi dans le mode d'organisation qu'on va retrouver à travers ce qu'incarnent les ronds-points. Le rond-point, c'est un peu le no man's land, et à ce moment-là, il va devenir la centralité de l'organisation. Ce qui montre aussi une chose importante avec la question de l'espace, c'est à quel moment on a besoin d'espace pour s'organiser, pour se parler, pour penser soit une contestation, soit peut-être un nouvel espace ou un monde à venir. Et puis, on le retrouve aussi dans ce que ça peut raconter de la centralité quand le mouvement des Gilets jaunes va déborder sur des manifestations en centre-ville, donc qui vont aller directement questionner les lieux de pouvoir, etc., où s'organise le système économique et le système politique dans lequel nous vivons. Donc l'espace est un petit peu partout dans ce mouvement-là, et il n'est jamais nommé. La question de la production de l'espace, la question de l'urbanisme, elle n'est jamais identifiée comme telle. Ce n'est pas là-dessus que vont se centraliser les revendications, etc. Donc on a un premier exemple de mouvement social dans lequel ça achoppe. On peut en prendre d'autres en charge des mouvements sociaux. Récemment, on a pu participer d'une manière ou d'une autre à un gros mouvement sur la réforme des retraites, donc sur la question du travail, qui est assez centrale dans les mouvements sociaux quand même aujourd'hui. Et puis en même temps, il y a par exemple eu une loi qui s'appelle la loi Kasbarian-Berger, qui a été parfois assez mal dénommée loi anti-squat, mais qui est en fait une loi qui criminalise toutes les personnes qui vont avoir des impayés de loyer. Donc quelque chose quand même d'extrêmement grave qui touche très directement des millions de locataires dans ce pays. Bon, pour autant, les mobilisations contre la loi Kasbarian-Berger, ça a été extrêmement limité. C'était des centaines de personnes peut-être qui se sont jointes à quelques petites manifestations éparses, mais ça n'a pas mobilisé largement, quand bien même on était dans un contexte de mouvement social assez massif. On pourrait prendre d'autres exemples comme ça. J'en prends un dernier, qui sont les APL, les aides pour le logement, qui ont été baissées successivement de 5 euros, puis de 5 euros encore. Bon, ça a engendré quelques protestations de syndicats étudiants, quelques protestations de collectifs qui se battent historiquement sur la question du droit au logement, mais on ne peut pas dire que cette question de l'espace, du logement, etc., entraîne des mobilisations très fortes, contrairement à ce qui est parfois capable de faire le travail. Et puis, cette question, elle est aussi pas très présente, en fait, si on s'intéresse aux échéances, notamment électoralistes. Quand il y a des élections, c'est rarement un sujet de grand débat, la question de l'organisation de l'espace, malgré le fait que ce soit central, malgré le fait que dans les collectivités territoriales, c'est une grosse part des budgets qui est consacrée à la politique de l'habitat, qui est consacrée à la politique des mobilités, notamment la question des réseaux de transport en commun qui va intervenir à cet endroit-là. Et pour autant, c'est rarement un grand sujet au moment des élections, y compris locales. Et puis, il y a des questions aussi où on a un petit peu des choses qui symbolisent, entre guillemets, la manière dont on va arriver à être sur la question spatiale. Il y a un enjeu là-dedans, notamment celui de la rénovation urbaine. Donc la rénovation urbaine, schématiquement, depuis une trentaine d'années, c'est ce qui fait qu'on va démolir puis reconstruire dans un certain nombre de quartiers pauvres où vivent des populations certes peu aisées, mais aussi racisées, victimes de tout un tas de discriminations. Et en fait, c'est un énorme mouvement, la rénovation urbaine. C'est des milliards d'euros qui y sont consacrés. C'est des centaines de milliers de logements qui sont impactés et donc des millions de personnes qui subissent cette rénovation urbaine. Et ça se passe, il faut quand même bien le dire, dans une espèce d'indifférence générale assez marquée, y compris à gauche. On en arrive là-dessus. On voit aussi qu'il y a une inertie très forte sur ces questions-là. C'est-à-dire, à un moment, je suis bien gentil à vous faire une liste de ce qu'on aurait dû faire et puis qu'on n'a pas fait, mais il y a de bonnes raisons quand même qui font ça. C'est qu'il y a souvent cette impression que la question de l'urbanisme, c'est un rouleau compresseur qui avance, contre lequel il est difficile de s'opposer. Parce que qu'est-ce qu'on fait contre des promoteurs qui pèsent des milliards? Qu'est-ce qu'on fait contre la dynamique de spéculation immobilière qui fait que nos loyers flambent? Ce n'est pas des choses forcément sur lesquelles on a une main hyper importante. Il y a une inertie extrêmement importante de ce point de vue-là. Et l'une des ambitions, l'un des pourquoi du livre, c'est repolitiser cette question-là, mais aussi à un moment se dire, il y a des endroits où on va avoir des prises pour essayer de déconstruire ces monstres qu'on peut se figurer en disant, en fait, des fois, ces choses-là sont accessibles. Des fois, cet urbanisme, c'est un colosse au pied d'argile. Et il s'agit d'aller voir où se trouve la faille, où se trouve le moment où le projet il va peut-être pouvoir se casser la figure un peu de lui-même pour essayer d'agir dessus. Donc c'est aussi une des raisons du pourquoi. Et puis, dernier point qu'on identifie, il y a aussi tout un militantisme autour de la question de l'urbanisme qui s'est beaucoup joué sur la question, disons, du cadre de vie. Alors, des pistes cyclables, d'avoir une école avec un peu moins de circulation automobile autour, d'avoir éventuellement un petit mot à dire sur comment on va réaménager l'espace public. Mais tout ça, sans dire que ça n'a aucune importance, je pense que c'est quand même important aussi, c'est pas de nature, on va dire, à renverser la table de ce rapport de force, on va dire, très inégalitaire entre, on va dire, les professionnels de l'urbain, une espèce d'ensemble sur lequel on donne quelques billes à l'intérieur du bouquin pour essayer de comprendre où ça se niche, hein, un espèce d'ensemble où on va avoir des intérêts publics et privés qui agissent de concert pour dessiner à notre place la ville dans laquelle nous vivons. Globalement, c'est pas de nature à renverser la table. Alors ça, on peut essayer de le comprendre, on peut essayer de voir de quoi on hérite, c'est-à-dire il y a une histoire de ces luttes-là, il y a eu toute une histoire qui se joue autour des rapports avec le pouvoir, de quand est-ce qu'il y a une institutionnalisation, notamment de certains collectifs en lutte, qui vont devenir parfois des acteurs, finalement, qui font tampon entre une opposition, une conflictualité qui vient de la population et les pouvoirs publics ou avoir les acteurs privés de l'urbanisme. On hérite de ça et il y a sans doute des choses à en penser, donc c'est aussi quelque chose qu'on voulait mettre un petit peu au travail. Et puis, on se disait, tiens, non seulement cassons un petit peu cette histoire du rouleau compresseur, comme je disais précédemment, mais aussi il y a sans doute nécessité à être capable d'aider un petit peu en donnant à voir des expériences, hein, c'est ce qu'on pourra préciser après dans ce qu'on fait dans le livre, hein, c'est beaucoup de données à voir des luttes, des résistances qui existent, ce qui peut se passer à certains endroits pour pouvoir construire des discours. Et là, on peut prendre par exemple un élément actuel. Je le disais, la question du logement, elle occupe peu l'espace politique et médiatique. Aujourd'hui, actuellement, depuis quelques semaines, quelques mois, on a quand même un peu cette idée qu'il y a une crise du logement qui surgit. Et alors, on se retrouve à avoir un truc assez intéressant, c'est qu'on a un discours qui est tenu, qui est en fait le problème, ce serait qu'il n'y a pas assez de production de logements neufs. Et c'est intéressant parce que ce discours-là, il va être tenu à la radio, dans les journaux, etc., par des acteurs très différents. On va y retrouver les pouvoirs publics, on va y retrouver les promoteurs et les représentants, notamment syndicaux, des entreprises du BTP, enfin en gros le MEDEF-BTP, quoi, qui vont tenir ce discours-là. Mais on va ici retrouver, par exemple, c'est le discours de la fédération, de la fondation, pardon, Abbé Pierre, qui va tenir d'autres discours par ailleurs, mais qui dit l'enjeu, c'est de construire davantage de logements neufs. Et là, il y a sans doute quelque chose à penser, parce que il y a sans doute un contre-discours à construire. Ça paraît assez évident qu'il y a des problématiques qui sont posées. En France, il y a 3 millions de logements vides. Et puis la question, c'est quel logement on construit, qui les construit, comment, etc. Enfin, il faut aller un peu plus loin, sans doute, que juste se contenter de réclamer toujours plus de production de logements neufs, etc. Et pour autant, on peine un peu à se saisir de cet objet, à dire qu'est-ce qu'on construit comme contre-discours. Et c'est un petit peu sur ce genre d'endroit où on se dit qu'il y a quelque chose à faire et des choses à penser, des choses à réfléchir à partir d'expériences, de ce qui peut se jouer ici et ailleurs pour construire ces contre-discours. Donc voilà, c'est un peu les objectifs qu'on avait en disant tiens, nous, il nous semble que la question de l'espace, elle est centrale, il nous semble qu'elle est un petit peu délaissée, qu'elle est un peu parfois écrasée par d'autres questions. On voudrait participer à politiser cette question-là au sens de lui redonner de la conflictualité. Alors la conflictualité, on ne va pas l'inventer, la conflictualité est présente en permanence, hein. Il y a de la conflictualité partout en ville, il y a de la conflictualité par exemple entre des locataires et leurs propriétaires, il y a de la conflictualité qui peut se jouer sur un certain nombre de projets urbains, mais voilà, c'est cette ambition-là de la politique quand même, hein, de remonter en conflictualité, de dire il faut hausser le ton quelque part pour pouvoir renverser la table, et aussi monter en généralité, c'est dire comment est-ce qu'on est capable de saisir de quelques luttes éparses, de quelques combats qu'on peut avoir, nous, individuellement, par exemple, face à notre propriétaire, pour essayer de ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, quels sont les processus plus généraux qu'il y a derrière. C'est ça qu'on met derrière cette notion de dépolitisation, et donc de repolitisation, remontée en politique. Et puis, on veut contribuer à ça en disant, voilà, ce que je disais précédemment, en cassant cette idée du rouleau compresseur, en donnant aussi de quoi nourrir des imaginaires de lutte, de contestation, qui disent, à un moment, ces conflictualités latentes, comment est-ce qu'elles peuvent peut-être parfois donner des choses intéressantes quand elles explosent.
Alors, comment on a fait pour essayer d'atteindre cet objectif, donc faire ce livre? Comment on a fait ce livre? Alors déjà, comme on n'a pas fait, on s'est dit on ne va pas écrire simplement, on ne va pas juste donner notre point de vue, fût-il aussi informé que possible. Mais on va aller chercher justement qu'est-ce qui se passe. On va aller chercher des gens pour raconter, donner un point de vue, donner à voir, essayer. Le premier objectif, c'était on voulait que les luttes parlent. Ça, c'est dur, parce que les luttes ne parlent pas d'elles-mêmes. Il faut que quelqu'un les fasse parler, il faut que quelqu'un s'y mette. Ça a été un peu la première déconvenue, un petit peu, c'est que finalement, on s'est retrouvés, on voulait que ça soit vraiment de la base, que ça parte. Hein. Finalement, on s'est retrouvés avec beaucoup d'universitaires militants qui écrivent. Ça dit quelque chose. Surtout sur la question urbaine, hein, qui est quand même à la fois dépolitisée et saturée de discours. Hein, les discours sur la ville, il y a des librairies entières hein, qui sont que sur la ville, quasiment. Hein. C'est important. Il y a l'urbanisme. Hein, ça veut dire qu'il y a des écoles d'urbanisme, il y a des masters d'urbanisme, il y a des masters de géographie aussi qui travaillent là-dessus, qui parlent de la ville, etc. etc., etc. Donc il y a un discours qui est produit à l'université. On n'avait pas envie de relayer ce discours. On n'avait pas envie de remettre une pièce dans la machine de ce discours-là. Et pourtant, on avait aussi envie, parce que, en tout cas, on vient de là, plus ou moins, on pourra s'en expliquer, si on nous pose la question, de garder une volonté de précision dans les faits, de travailler et d'exigence un petit peu sur la question factuelle et la question de l'analyse. Mais on se retrouve avec ce collectif, avec ces gens-là. On finit à 40 personnes à avoir participé à ce livre, que ça soit sur les illustrations, que ça soit sur l'écriture, plus 31 personnes sur l'écriture, et 40 personnes en tout, et 4 personnes qui ont co-ordonné cette entreprise sur 2 ans, en gros. Ça a donné lieu à 22 chapitres. Voilà, on arrive à 22 chapitres qui sont 22 chapitres assez thématiques, qui peuvent se lire séparément les uns des autres. C'était aussi une volonté pour nous que ça soit lisible, que ça soit appréhendable par petits bouts, que ça soit pas une grosse somme difficile à intégrer, mais que ça donne vraiment à voir. Et j'ai l'impression qu'on a un peu réussi, quoi. On avait aussi un autre objectif, c'est qu'il soit joli. Et là aussi, moi, je suis hyper content, je le trouve hyper joli. Et ça, c'est Camille Colliot qui a mis en page, hein, qui a quand même fait le boulot. C'est elle qui a fait le boulot. Le livre est quand même assez joli. Autre volonté qu'on avait dans ce comment du livre, c'est d'arriver à donner, à comprendre la machine de la production de la ville. Et il y a 5 cahiers à l'intérieur, 5 cahiers et un lexique qui viennent expliquer ça. Et il y a un poster, on a voulu faire une représentation graphique de la production urbaine. C'est Victor qui a fait ça. Et c'est très joli. Alors normalement, on vous le montre là, mais on vous le montrera peut-être demain. Vous l'aurez en sérigraphie si vous venez au hangar. Attention, page de publicité. Demain au hangar, on continuera cet effort de compréhension de ce qui se passe ici, ce qui se passe dans les villes. Donc, on a fait tout ça. On a fait aussi, et je pense que ça, c'est important, on a quand même... Il y a 7 entretiens, c'est ce qui n'est pas peu, hein, sur 22 chapitres. Il y a 7 entretiens réalisés. Donc, Leïla pourra en parler d'un. Elle en a effectué un. Qui permettent justement de sortir, de faire parler des personnes qui sont directement prises dans les luttes et d'écrire, co-écrire des chapitres. Donc c'est vraiment cet effort-là de donner à voir la multiplicité des combats. Ça s'appelle lutte et résistance. C'est vraiment cette idée qui a déjà été exprimée par Mathieu, que il y a toujours de la conflictualité, il y a toujours des résistances en fait, et que il faut pour politiser, il faut commencer à les regarder, parce que c'est de là qu'on partira. On va pas repartir d'un point qu'on va inventer dans nos têtes d'intellectuels, non. On va repartir de ce qui est possible dans la réalité, et donc faut aller la chercher, faut aller la voir, faut tenter. Et c'est aussi, c'est un peu le dernier chapitre qui est une tentative de propos conclusif qu'on a rédigé avec Antonio et Mathieu et moi-même, où on a tenté une sorte de montée en généralité théorique. On a essayé de mettre un peu en perspective ça. Et on a dégagé 4 axes qui permettent de penser aussi l'ensemble du livre. Encore une fois, on peut y rentrer sans ces axes-là, mais ça donne à voir un petit peu ce que ça a donné cet effort de synthèse et d'analyse de réunir tous ces textes. On a notamment une entrée qui est, et sur laquelle on tenait beaucoup, c'est la question foncière. Combien ça coûte, quoi, la terre, quoi, l'action de la rente, la question, etc. Parce que c'est un peu, je vous le disais tout à l'heure, il y a des mètres linéaires de bibliothèques sur la ville. Pour parler de la question foncière, il y en a beaucoup moins. Parce que c'est sûr que dès qu'on arrive à la question foncière, tout le discours, tout un discours un peu sympathique qu'on peut avoir sur la création des espaces, etc., il s'écroule parce que combien ça coûte, en fait ? Combien ça coûte ? Qu'est-ce que ça nous fait, en fait, de qu'est-ce que nous fait la propriété privée et comment est-ce qu'on fait avec ? Et contre. Donc, en attendant son abolition, on a repéré d'abord la question du squat, évidemment, hein, qui est l'action directe la plus évidente sur la question de la propriété. C'est un entretien qui est dans le livre. Mais on est allé aussi sur des questions de comment est-ce qu'on a des propriétés en commun, comment est-ce qu'on revient à des propriétés d'usage, etc. Et donc, il y a vraiment un arc comme ça qui traverse le livre sur la question de la propriété. Parce que ça nous semblait important de remettre cette question au milieu de la réflexion. Ensuite, et assez proche de ça, il y a une question qui est celle de l'organisation. Quand on parle de lutte, on parle d'organisation. Pour s'organiser, il nous faut des lieux, il nous faut des espaces. Et donc ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi... les questions urbaines, elles ont, mais comme beaucoup de luttes, elles sont marquées par une temporalité très longue. Un projet, c'est souvent 10, 20, 30, 40 ans, quoi. Et donc, ça questionne de comment est-ce qu'on tient dans la durée. Comment est-ce qu'on se transmet les savoirs. Comment est-ce qu'on arrive à faire bloc pendant 30, 40 ans sur un projet. Et c'est aussi simplement l'espace nous organise notre vie, il nous organise les emplois du temps. Mais cette question de l'organisation, notamment, on la voit dans pas mal de papiers, où il y a un risque de l'institutionnalisation, il y a une digestion du pouvoir des différentes organisations. On le voit par exemple sur les associations de locataires qui sont marquées par l'anarchisme au début du siècle, qui vont être très combatives pendant un moment et qui progressivement vont s'endormir d'une certaine manière et qui sont aujourd'hui ils siègent à des comités représentatifs et ils ne font plus grand-chose. Ils sont d'ailleurs débordés par d'autres associations qui arrivent, etc. Donc cette question de l'organisation qui était assez centrale et qui vient jouer sur un autre arc, c'est que souvent, par exemple, une réponse assez rapide qu'on peut avoir sur la question de l'espace, c'est qu'il faut que les habitants et habitantes s'approprient l'espace. Sauf que cette catégorie d'habitants et habitantes, elle est fictive. Dans un quartier, les gens ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas une homogénéité, c'est traversé par des rapports de pouvoir, de classe, de race, de genre. C'est traversé par un rapport différent. Il y a des propriétaires, des propriétaires habitants, des locataires, etc. Et donc, il faut construire cette réalité. Et il faut construire ensemble sur un espace. Et donc, les rapports sociaux de domination traversent complètement l'espace, s'y représentent. Donc on peut les percevoir dans l'espace par les ségrégations qu'on peut constater dans certains espaces, simplement parce qu'on est interdit d'un espace, on est assigné à un autre, mais en plus ils les reproduisent, justement par ces assignations, on ne peut plus aller dans le centre-ville, on n'a pas accès à tel et tel logement, etc. Donc l'espace a un rôle très fort dans cette question et on va arriver assez vite à ce qu'a fait Leïla, parce que ça traverse complètement le chapitre que tu as écrit. Et donc le dernier point qui nous tenait aussi, qui était important, c'est les questions écologiques et une écologie populaire, quoi. On est aussi allé chercher comment est-ce qu'on pouvait reparler de cette question de l'écologie, pas comme une écologie qui réservée à des classes à des classes élevées, à finalement à une un ripollinage du capitalisme, mais comment il y a une vraie question. Alors ça va de l'isolement des maisons à, encore une fois, les questions de déplacement. Mais ici, c'est traité beaucoup sur la question de, des jardins populaires, des jardins occupés, ou comment des personnes s'auto-organisent dans des quartiers pour avoir accès à un espace de qualité et le défendre. En dehors, justement, en luttant contre la question foncière qui devrait normalement les priver de ça. Et donc en s'appropriant des espaces, mais aussi d'un autre côté, c'est comment est-ce que des populations se retrouvent confrontées à une exposition à des risques environnementaux beaucoup plus forts, comment ils sont ségrégés, et notamment les personnes, les voyageurs et les voyageuses, et ça c'est ce que tu as fait quoi.
Donc oui, effectivement, moi j'ai travaillé sur la question des voyageurs, juste pour repréciser un petit peu ce qu'on appelle les voyageurs, c'est ce que dans les politiques publiques on va appeler notamment les gens du voyage. Aujourd'hui on appelle ça maintenant les citoyens français itinérants, c'est leur nouveau nom officiel. Donc les gens du voyage, citoyens français itinérants, nomades avant, tout ça ce sont en fait des exogènes, c'est des noms qu'on leur a donnés. Donc ces populations-là, le plus simple pour nous, et en tout cas ce qu'on a décidé de faire avec William Acker, qui est la personne avec qui je fais l'entretien dans cet ouvrage, c'est de parler de voyageurs, parce que ce sont souvent des personnes qui y voyagent. La question que je me suis posée, en fait, peut-être que je vais essayer de rembobiner et de vous dire comment j'en suis retrouvée à participer à cet ouvrage. C'est qu'en fait, à la base, j'étais étudiante, voilà, et je faisais des études tout à fait simplement. Et je suis tombée sur Mathieu, en fait, qui a dirigé un de mes mémoires, qui par ailleurs était très mauvais, et qui a lu mes précédents mémoires, puisque j'en avais écrit un sur l'écologie populaire dans le quartier des Minguettes, donc le quartier des Minguettes dans la banlieue lyonnaise, qui est de là où est partie d'ailleurs la marche pour l'égalité et la justice qui a fêté ses 40 ans récemment. Et on s'est rencontrés, on a partagé une approche, enfin une compréhension de la ville qui était assez intéressante. Et puis quand j'ai eu fini d'écrire ce mémoire très mauvais, Mathieu m'a recontacté en me disant « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à écrire quand même sur cette question de l'écologie populaire, de l'écologie dans les quartiers populaires ?» Parce qu'en fait, effectivement, et pour moi la première, pendant très longtemps, l'écologie, ça a été un truc de blanc, un truc de bobo, un truc de bourgeois. Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est en tout cas la prénotion que j'en avais avant justement de travailler sur ce quartier-là dans les Minguettes. Pour vous présenter un petit peu, moi, ce que j'avais vu en premier abord, c'est que c'était des habitants qui se battaient contre une rénovation urbaine, donc une construction démolition, qui allait notamment bétonner des espaces verts, qui allait instaurer des routes en fait, au sein du quartier qui est en politique de la ville, donc un quartier prioritaire, ce qui allait forcer les enfants en fait, à devoir traverser des routes pour aller à l'école alors qu'avant ils ne traversaient que des espaces verts. Tout ça pour en fait, permettre une intervention de la police plus facile, puisqu'en fait plus il y a de routes, plus les flics peuvent passer. Et en fait on s'est dit, ok, alors du coup si on essaye de réfléchir à quelles sont les mobilisations populaires sur les questions d'écologie, à quoi est-ce qu'on pourrait penser ? Moi il y a quelque chose qui me titillait depuis longtemps, c'était de travailler avec Fatima Ouassak, qui a notamment écrit L'écologie pirate, que j'ai dû voir en plus à l'entrée. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il paraît qu'il est très bien, je n'ai pas encore eu la chance de le lire. Et notamment, ce qu'ils ont monté avec Vert Dragon, donc cette idée d'association écologique, enfin écologiste, dans des quartiers populaires avec des revendications qui étaient assez variées, avec cette idée par exemple avoir du végétarien à la cantine, enfin voilà, avoir un accès à des espaces verts, avoir en fait un accès à l'espace aussi tout bêtement, qui était vraiment intéressant. Et puis en fait, on n'a jamais réussi à la contacter. Et donc voilà, donc on a essayé par plein de moyens, et on n'a pas trouvé, et en fait, on n'arrivait pas à les avoir, et on s'est dit bon. Tant pis quoi. Alors qu'on se disait que finalement on allait lâcher et puis que tant pis, ça serait pour une autre fois, j'ai repensé au travail de William Acker qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Où sont les gens du voyage, qui a eu d'ailleurs, je crois, le prix d'écologie politique de l'année 2022, et qui parlait en fait d'où étaient installées les aires d'accueil. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble des aires d'accueil, mais en gros, c'est des parkings à ciel ouvert, engrillagés, surveillés, contrôlés, où peuvent s'installer des voyageurs, alors normalement de manière peu pérenne, mais où en fait les gens finissent par y habiter de manière de plus en plus pérenne, ce qui n'est pas non sans poser problème pour eux. C'est des zones aussi, j'allais dire de non-droit, au sens où quand vous vivez dans une caravane, vous n'avez pas le droit aux APL, vous n'avez pas le droit à un tarif réglementé sur les flux, donc eau, électricité, etc. Et puis par ailleurs, en fait, vous vivez dans un enclos, hein, il n'y a pas d'autre mot, qui est surveillé avec un règlement intérieur, vous pouvez avoir des punitions et des sanctions. Ça fait très prison, voilà, pas d'autre mot. Et le problème, c'est que les voyageurs qui voyagent, donc qui se déplacent d'endroit en endroit, ils ont le droit de voyager que d'une aire d'accueil à l'autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'aires d'accueil en France, puisque les communes ne respectent pas leurs engagements. Et d'ailleurs, l'agglomération de Toulouse est très en retard, en tout cas sur ce qu'elle devrait produire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce que vous allez aussi retrouver dans cet entretien avec William, c'est en fait comment les luttes des voyageurs ont aussi une dimension écologique. Parce qu'en fait, la plupart, 51% je crois à peu près, des aires d'accueil situées sur le territoire métropolitain, enfin hexagonal on va dire plutôt, sont polluées en fait. Donc 51% d'entre elles sont polluées. Ça veut dire qu'on a une partie de la population qui est complètement, qui vit dans des endroits déjà qui leur sont réservés et qui vivent dans des endroits qui sont pollués. 3% d'entre elles sont très proches d'usines Seveso à seuil haut, donc c'est-à-dire des endroits qui sont physiquement dangereux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, en septembre 2019, je crois, à Rouen, où il y a eu un incendie, je crois, d'une usine Seveso. Ben, en fait, les seules personnes qu'on n'a pas évacuées, c'était les gens du voyage qui étaient à 300 mètres dans l'aire d'accueil. On ne les a pas évacués parce qu'en fait, on leur a refusé de partir avec leur caravane. Donc en fait, ils ne pouvaient pas partir, puisqu'on ne peut pas partir sans sa caravane. Enfin bon, bref. Il y a plein de choses à dire sur la question des aires d'accueil, le fait qu'elles soient reléguées, le fait qu'elles soient dans des endroits qui sont très nocifs. Les enfants voyageurs sont très touchés de saturnisme. Enfin, il y a énormément de choses. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler une forme de racisme environnemental, c'est qu'on va faire subir à des populations racisées des conditions de vie et d'existence qui ne sont pas dignes et qui mettent en danger leur santé. Et leur intégrité morale et physique. Et du coup, c'est ce sur quoi on a essayé de discuter avec William, sur les différentes luttes qu'il pouvait y avoir, parce qu'il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, vous vous battez face à votre collectivité, qui est aussi votre logeur. Donc, en fait, il peut aussi très bien vous expulser dès que vous êtes un peu trop revendicatif. Donc, ce sont des luttes qui sont très difficiles et compliquées. C'est intéressant de voir que, en fait, et c'est ce que William disait, les luttes de voyageurs ont commencé à avoir un petit peu d'écho et avoir un petit peu de d'écho dans les milieux notamment de gauche, etc., quand en fait on les a pris par l'angle écologiste. Et du coup, de voir que parfois, pour attirer des militants sur ce genre de lutte-là, la seule dignité humaine et l'intégrité physique des personnes racisées ne suffit pas. Voilà. Et donc c'était un constat qui était particulièrement triste, mais je vous rassure, dans l'entretien, on ne parle pas que des défaites, il y a aussi quelques victoires, aussi maigres soient-elles, elles donnent un petit peu d'espoir. Et écoutez, ma foi, je vous invite en tout cas à aller voir sur l'ouvrage de William, qui est en ligne et qui est disponible en PDF. À la toute fin, vous avez un annuaire de toutes les aires d'accueil hexagonales qu'il a recensées, avec si elles sont reléguées, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont coincées entre un chemin de fer et une autoroute, est-ce qu'elles sont proches de la mairie, est-ce qu'elles sont proches d'une usine, etc. etc. Et allez regarder dans votre commune, où est-ce qu'elle est l'aire d'accueil, est-ce que vous l'avez déjà vue, qu'est-ce qui s'y passe et comment éventuellement interpeller les pouvoirs publics sur cette question-là, parce qu'effectivement on n'est pas, ce qui est assez intéressant à savoir, et je pense que je vais m'arrêter là pour laisser un peu de place au débat, c'est que William est, avec l'aide de beaucoup de voyageurs et de voyageuses qui lui faisaient remonter les informations sur le terrain, est le premier à avoir réalisé un inventaire assez complet des aires et avoir réalisé des statistiques sur où elles étaient et si elles étaient polluées ou pas, puisqu'en fait les pouvoirs publics n'avaient pas ces statistiques-là. Et quand les voyageurs disaient
mais toute la majorité des aires sont polluées, etc. Ce que répondaient les pouvoirs publics, c'est vous n'avez aucune preuve, globalement, et vous n'avez aucun chiffre. Et bien, du coup, maintenant, les chiffres, on les a, donc il faut s'en servir. Voilà.
Alors, j'aurais une question à vous poser. Je n'ai pas encore lu votre livre, donc je ne sais pas si vous y répondez directement à l'intérieur. Mais comme au début, monsieur disait qu'il fallait repolitiser cette question de l'espace urbain, qui est, à mon sens, aussi très importante. Mais j'aimerais aussi savoir comment repolitiser cette question-là dans des populations qui sont des populations assez précaires, qui vont subir ça de façon assez... qui vivent dans des conditions assez précaires et qui viennent de la classe prolétarienne et qui... n'ont pas cette chance de se politiser par manque de moyens, par manque de temps dans leur vie. Comment politiser cette question-là envers ces populations qui n'ont pas la chance de se politiser en général ?
Alors, merci d'abord. Merci pour la question. Bon, c'est pas nous qui allons politiser la question pour des personnes qui sont pas là ou... mais je pense d'abord, j'ai l'impression que pour politiser ça, c'est de reconnaître qu'est-ce qui est politique dans la vie quotidienne, en fait, habiter dans ces quartiers et la rénovation urbaine, par exemple, parce que j'ai l'impression que vraiment cette question-là, se poser la question, nous, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas fait quelque chose de politique ? Pourquoi ça fait 20 ans qu'on détruit des quartiers populaires et que c'est pas un sujet ? Pourquoi est-ce que voilà, essayer de rétro-pédaler là-dessus et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il me semble qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose. Après, d'une autre manière, souvent on parle de lutte des quartiers populaires et on considère pas ça comme une lutte urbaine. C'est comme si la politique de la ville avait dépolitisé la ville, avait complètement transformé cette question-là. Et je pense que là, il y a des trucs à tirer. Il y a à investir ces questions-là et à non pas dire quelque chose sûr, mais créer des espaces de dialogue pour qu'on arrive à prendre ensemble. Par exemple, ici à Toulouse, je prends un exemple toulousain parce que moi je suis de Toulouse, il y a des projets de rénovation urbaine, notamment à la Rennerie, dans Grand Mirail. Il y en a eu ailleurs. Et il y a un projet de rénovation urbaine en centre-ville qui est Toulouse Euro Sud-Ouest ou Grand Matabiau Quai d'Oc. Donc voilà, on a rasé un quartier, on va en reconstruire un autre. Bon, on n'a pas réussi à faire le lien entre ces deux affaires. On pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on fait le lien entre ces deux affaires ? Et notamment, ce qui fait lien, c'est les pouvoirs publics. C'est qu'est-ce que c'est que ce truc d'aménagement ? Donc voilà, c'est une piste. Et je pense que sur cette question du temps, qui est en fait le même problème aussi pour nous toutes, hein, c'est à un moment, effectivement, on manque de temps pour se mobiliser. Il est digéré par le travail, etc., le labeur inutile qui ne sert qu'à trouver de l'argent pour continuer à pouvoir travailler. Mais c'est de fabriquer des temps d'échange et d'élaboration ensemble sur ces questions-là. C'est ça que, voilà, comme recette. Et je crois qu'on en parle un peu dans le livre, et notamment, il y a un exemple assez intéressant sur les plateformes logistiques. Les plateformes logistiques qui sont à la fois conséquences et nerfs de la guerre de ce capitalisme de commande et de livraison qui se développe. Qui s'installe et qui donc artificialise des pans entiers de terre, qui vont faire travailler des gens dans des conditions déplorables. Et là, on a aussi des éléments où il y a un chapitre qui en parle, où se croisent les questions écologiques, les questions d'aménagement de l'espace et les questions sociales. Du travail, là, directement, quoi. Mais qui touche aussi des classes, justement, prolétaires, souvent racisées, etc. Donc, voilà les pistes.
Ouais, je rajoute sur quelques éléments présents dans le livre. En fait, ces classes populaires ou très populaires, elles sont déjà présentes, en fait, dans ces luttes. Je vais prendre deux, trois exemples. Je comptais parler un petit peu de cette question de la logistique, mais on les retrouve aussi pas mal. Bon, les luttes de voyageuses, c'est pas des populations voyageuses, c'est vraiment pas des luttes de personnes aisées. Mais on les retrouve pas mal sur les questions de la rénovation urbaine dont tu as parlé. On les retrouve aussi sur la question des jardins, avec des choses assez intéressantes aussi. Donc, quand est-ce qu'on nommait les choses, c'est les faire apparaître comme politiques aussi, des fois. Et par exemple, sur un des jardins dont il est question, hein, qui est à Besançon, c'est le jardin des Vettes. Et en fait, les personnes des Vettes, elles parlent d'autogestion spontanée. C'est un jardin qui est sur en fait, une ancienne friche agricole. Et actuellement, la municipalité, depuis une vingtaine d'années, essaie de remplacer ça par un écoquartier. Donc on voit que là, on a des questions d'écologie venues d'en haut et vues d'en bas qui s'opposent assez frontalement. Et en fait, où il n'y a pas d'organisation. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup de vieux jardins ouvriers où il y a des associations, hein, issues souvent du paternalisme ouvrier, hein, c'était la terre qu'on donnait aux ouvriers pour autoproduire, etc., et pour subvenir un peu mieux que ce que le salaire minable qu'on leur donnait leur permettait de faire à leurs besoins, est né à cet endroit-là, en fait, un truc qui fonctionne sur la débrouille, où faut bricoler soi-même, faut aller négocier sa place dans l'espace encore disponible avec les voisins, etc., et où il se crée en fait des sociabilités plutôt de milieux ouvriers et de gens par ailleurs très pauvres. Il y a aussi des populations dites roms qui vivent sur place, etc. Donc en fait, ces choses-là existent déjà. Des fois, juste, on ne les regarde pas. Et il y a quand même aussi cette idée de dire qu'une des manières de rendre les choses politiques, juste des fois, c'est effectivement de contribuer à les nommer, de contribuer à les visibiliser. Et en fait, globalement, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément accès, je veux dire, à des écrits lettrés ou qu'on a le temps à y consacrer, etc., que en fait, la conflictualité politique, elle n'est pas déjà présente.
Alors, une question peut-être qui va résonner avec la première. J'ai l'impression que vous êtes centré sur des associations, sur des luttes qui sont citoyennes et populaires. Pourquoi ce focus-ci ? Est-ce que c'était pour vous une contrainte du terrain ? Est-ce que c'était pour vous l'opportunité d'illustrer une dualité un peu marxiste des acteurs et des enjeux sur la ville ? Et deuxième question qui résonne avec la première, qui aujourd'hui lutte ? Est-ce que les politiques luttent ? Est-ce que l'extrême droite lutte ? Ou alors il n'y a que les petits gentils de gauche un peu révoltés qui luttent dans des objectifs un peu vertueux ? Parce que j'ai en tête que les projets de territoire et les projets urbains sont des luttes en soi, mais globalement, comment les acteurs se saisissent du sujet et arrivent à créer un conflit autour de l'espace.
Alors, je vais essayer de me lancer. Merci pour la question d'abord, les deux questions. Alors pour répondre d'abord sur qui on s'est focalisé, comme l'a dit Américo, on s'est focalisé sur ce qui existe. Après, on s'est focalisé sur ce qui existe, qui est aussi notre famille politique, quand même. Alors, faut le dire, hein, c'est un bouquin qui est, donc on l'a dit, hein, écrit par des militantes militants, par des universitaires militants ou militantes par ailleurs, et qui sont plutôt inscrits, même si le bouquin est œcuménique, on va dire que ça va de la France insoumise à des sensibilités anarchistes. Quand même, donc c'est une position. On est aussi allé voir concrètement des gens qui nous ressemblaient et qui défendaient un idéal émancipateur et d'autonomie qui nous semblait intéressant. Il y a des luttes réactionnaires en ville, notamment contre les nuisances sonores, etc. Il y a des luttes d'appropriation de l'espace de l'extrême droite. Je dois dire que si ce n'est pour les combattre, elles ne nous intéressent pas énormément. Pour ce qui est de la typologie d'organisation. Donc là, on a effectivement parlé des associations pour illustrer notamment le moment où il y a eu une institutionnalisation. L'ouvrage, de la même manière, est assez œcuménique sur ce plan, c'est-à-dire qu'on ouvre le débat en disant, mais en fait, il n'y a pas une forme d'organisation. L'objectif n'est jamais dans cet ouvrage, en tout cas, de venir donner une recette qui pourrait fonctionner partout. D'abord, ça a très peu de chances d'avoir une quelconque réalité, de fonctionner effectivement. Puis ensuite, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Et donc, on est allé voir ce qui existait et comment ça se positionnait. Et de fait, il y a des chapitres qui prônent notamment l'idée d'un syndicalisme de quartier qui reprennent un petit peu la logique du fonctionnement syndical en l'appliquant à la question non seulement du logement, mais un peu de la ville, en disant on habite ici, on s'organise ici avec nos pairs, avec les personnes qui ont la même situation d'organisation, en disant notamment si on est capable de construire ces choses-là en tirant des leçons d'anciens syndicats de locataires ou d'associations de locataires qui se sont fait happer et institutionnaliser, on est susceptible de construire d'institutionnaliser, mais volontairement. C'est-à-dire de dire, pour durer sur le long terme, il faut qu'on ait des organisations qui soient installées, qui soient construites, qui aient éventuellement des ressources, etc., qui permettent d'être capables d'affronter notamment des projets de rénovation urbaine ou de penser éventuellement le monde futur. Et de l'autre côté, on a des chapitres qui prennent parti pour dire, en fait, ce qui compte, c'est d'être capable de sortir dans la rue quand il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et ça, c'est l'exemple notamment dans des chapitres sur Marseille, qui défend le fait qu'au moment des écroulements, ce qui a permis, à un moment que ça monte en politique, c'est qu'il y a eu des émeutes qui ont directement suivi les effondrements, et qu'en fait, ces deux choses, c'est quelque chose d'important. Nous, on n'a pas voulu choisir une option plutôt qu'une autre. Donc, à un moment, dans cet endroit-là, il n'est pas question du tout d'association ou de syndicat de quartier. Hein, il est question de qui se mobilise. Et c'est très extrêmement difficile d'en faire un portrait sociologique, par ailleurs, parce que ce portrait serait extrêmement diversifié. Mais on va retrouver ça dans d'autres chapitres, hein, où, en fait, il y a des endroits où il n'y a pas d'organisation, ou alors il y a des organisations de fait, c'est-à-dire pas du tout structurées, etc. Et sans doute, si on reprend cette dichotomie un petit peu institutionnalisation d'un côté, zbeul ou révolte de l'autre, il y a sans doute un moment où la réponse, elle peut être au milieu. Et cette question de savoir comment des formes de lutte, pas forcément a priori hyper conformes, peuvent s'organiser, c'est quelque chose qui est aussi abordé pas mal, qu'on a essayé de prendre au sérieux, c'est-à-dire il y a des choses intéressantes qui se passent et qui sont intéressantes aussi sur qui se mobilise et quand ça se mélange. On prenait l'exemple des plateformes logistiques, donc notamment avec cet exemple fort, hein, qui sont les plateformes Amazon, notamment, mais bon, c'est tout ce qui peut y ressembler. Bah, c'est des endroits intéressants, parce que c'est des endroits où des syndicalistes ouvriers vont travailler avec des militants, militantes écologistes. Et alors, en termes de background sociologique ou en termes de formation politique, on n'est pas forcément exactement au même endroit. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nie des alliances un petit peu nouvelles, ça nie des modes de fonctionnement un petit peu nouveaux. On prend cet exemple aussi par rapport à la question de... Il y a la question du droit qui est assez présente, évidemment, en ville. Hein, c'est-à-dire qu'on est un peu obligé de faire avec. Ce n'est pas forcément un grand choix. C'est-à-dire que des fois, il faut se défendre légalement. Et puis des fois, il faut être capable d'utiliser les outils du droit qui ne sont pas spécialement conçus pour contribuer à l'autonomisation collective des personnes, mais plutôt pour corseter les possibilités d'organisation autonome qui dépasserait l'État ou qui dépasserait les intérêts du capital. Mais des fois, utiliser les outils du droit, ça peut fonctionner. Et donc, on a fait notamment un entretien avec deux avocats, à la fois sur le droit du logement et sur le droit de l'environnement, hein, notamment sur comment ça se passe sur des projets urbains entiers, et comment est-ce qu'on peut se servir du droit pour être offensif ou défensif. Et à un moment, cette question des luttes juridiques, elle va s'entrechoquer parfois au même endroit, parfois avec pas beaucoup de facilité, avec des questions d'occupation, c'est-à-dire avec l'illégalisme. Voilà. Ça, c'est ce qui s'incarne notamment aux Lentillères, où il y a cette tension un petit peu qui peut exister. C'est ce qui s'incarne aussi sur les luttes de jardin. Mais c'est quelque chose qui va s'incarner assez souvent, c'est-à-dire que ça pose derrière la question de qui fait quoi. Et là, la réponse, elle va jamais être uniforme. C'est pour ça que c'est difficile de répondre aussi à cette question. C'est-à-dire que la réponse, elle va jamais être uniforme. Mais ce qui est intéressant, c'est de comment tout ça se coalise et à un moment permet de construire un rapport de force qui puisse être favorable.
Je vais répondre volontairement à côté parce que la question m'évoque autre chose. Il y a quelque chose que moi, j'ai trouvé très intéressant du côté des luttes de voyageurs et de voyageuses. C'est qu'en fait, ce sont des luttes de voyageuses. Et ça, c'est quelque chose où je ne m'y attendais pas forcément. Enfin, je n'avais pas forcément cet a priori-là. Je ne sais pas si je l'ai précisé avant, mais moi, je ne suis absolument pas voyageuse. Et j'ai travaillé avec William et on a des bases de compréhension communes puisque je suis aussi racisée, mais pas du tout en lien avec cette communauté-là en particulier. Donc, je n'avais pas particulièrement d'a priori sur les modes d'organisation, etc. Et il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est à la fois, c'est une lutte qui est très féminine, une lutte de femmes. Et ensuite, un des déclics qui font qu'elles se mettent à lutter, c'est souvent quand les enfants sont en danger. Donc, comme je vous disais, la question du saturnisme, la question de la pollution, parce qu'en fait, quand on vit entre des carrières et puis des carrières, des usines, des trucs, des machins, en fait, il y a à la fois il y a de la vibration dans le sol, il y a de la pollution de l'air, il y a de la pollution sonore. C'est des conditions qui sont extrêmement peu favorable à la vie, en fait, très bêtement. Déjà pas vraiment beaucoup favorable au travail, mais alors encore moins quand on vit sur place. Et en fait, ça a des effets très forts, notamment sur les enfants. Et c'est ça aussi qui est souvent le dénominateur commun des luttes. Et c'est quelque chose, alors bon, ça du coup malheureusement c'est pas dans le bouquin mais peut-être dans un prochain, c'est aussi ce qu'est écrit Fatima Ouassak, et quand elle parle des mères et de la position que c'est d'être mère et de lutter pour ses enfants. Et donc moi je trouve que c'est un ressort qui est intéressant, donc il y a évidemment plein d'autres ressorts avec plein d'autres acteurs qui se mettent à lutter pour des raisons qui sont tout à fait différentes, mais en tout cas sur la question des luttes populaires du côté des voyageurs et puis peut-être aussi du côté de ce qui peut être fait dans les quartiers populaires sur les questions d'écologie, la question des enfants et in fine la question de l'avenir en fait, de qu'est-ce qu'on va laisser à ceux d'après, quelque chose d'assez fort et d'assez moteur, et c'est malheureusement pas quelque chose qu'on va retrouver particulièrement chez les hommes. On a un peu plus de chances de le retrouver chez les pères, mais c'est pas du tout le même niveau d'engagement. Enfin voilà, je pense que c'est aussi un truc qui fait que mine de rien, dans les quartiers populaires et puis pour le cas des voyageurs, on a déjà pas mal de mères en fait qui sont engagées dans des situations plus ou moins conflictuelles, que ce soit avec l'école, sur la question du lieu de vie, de l'écologie, etc., etc.
J'ai envie de continuer ce que tu dis là, parce que de retranscrire quelque chose qu'a dit une des personnes qui a participé aussi au bouquin, qui est Claire et qui est sur le jardin des Vêtes à Besançon. Elle a relevé le fait que sur l'occupation des jardins à Besançon, c'est beaucoup des hommes qui travaillent la terre et qui occupent cet espace. C'est très masculin. Et que quand elles sont passées à une lutte ouverte, c'est-à-dire parce que bon, il y a une résistance latente d'occuper ces jardins, et ben c'est beaucoup des femmes qui s'en sont saisies. Et elles disaient, c'est étrange parce que les hommes disaient, c'est pas chez nous, c'est pas à nous. Et elle disait, elle expliquait ça en disant, mais nous, comme femmes, on n'a tellement pas l'habitude d'être propriétaire quoi qu'il arrive que de toute façon on se défend. On défend cet espace. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une question genrée sur les questions de lutte pour défendre l'endroit où on habite, l'endroit où on vit. Et il y a quelque chose de très intéressant à cet endroit-là et qui traverse le livre voilà, de manière un peu de manière transversale, ce qui est une sorte de pléonasme. Mais en tout cas, qui est en filigrane, quoi. Qui est un résultat un petit peu de ce qui a été écrit.
Oui, j'ai pas lu le livre, donc je viens de le découvrir, mais j'ai l'impression, parce que vous avez dit qu'il y a donc un aspect aussi de témoignage des luttes auxquelles vous avez participé. Donc j'ai l'impression, avec les réponses que vous avez apportées, qu'il s'agit peut-être d'un manuel pour mener des luttes. Donc la question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas donc une contradiction entre la démarche sociologique et la démarche militante dans cette tentative de retranscrire des luttes, et finalement un regard biaisé sur la construction du territoire?
C'est complètement biaisé, c'est-à-dire que effectivement on n'a pas une visée à un moment d'accumulation de connaissances qui se défendrait par la fiction d'une objectivité. On a voulu prendre pied dans les luttes, mais on n'a pas fait de publicité non plus. C'est-à-dire l'idée n'est pas d'enjoliver des choses et de dire c'est super, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc ce n'est pas un manuel. C'est plutôt retranscrire des éléments avec quelque chose de biaisé, c'est-à-dire on veut arriver à ce que ça donne des armes pour transformer la situation. C'est clair et net. On n'est pas là pour maintenir la situation telle qu'elle est, on n'a pas non plus vendu une soupe en particulier. Il y a beaucoup de contradictions dans le livre. Il y a des approches différentes sur les mêmes sujets, notamment sur la question qui a été posée, citoyenniste, associatif, etc. En fait, sur la question de l'organisation, il y a vraiment des points de vue très différents qui sont ouverts. Il y a des questionnements qui sont posés. C'est quoi les difficultés quand on lutte ? À quoi est-ce qu'on vient se cogner ? Qu'est-ce qui est l'idée, à mon sens, c'est que la lecture du livre permette finalement de construire un positionnement propre à la personne qui lit, aux personnes qui lisent, et pas adhérer. Il n'y a pas un point de vue auquel on pourrait adhérer, par exemple. Mais il y a des contrastes qui nous permettent, à mon sens, en tout cas c'est l'objectif, de comprendre un peu mieux ce qui se passe à ces endroits-là. Et que peut-être à cet endroit-là, il y a des gens qui vont le prendre de manière plus objective, on va dire, mais même si ça me semble un peu une fiction, cette affaire. Mais voilà, donc un biais, et pour autant, pas... en tout cas, on a essayé de mettre à distance. Alors peut-être, du coup, il faudra que quelqu'un le lise et nous dise, hein, y a certainement des... Mais mettre à distance un discours un peu publicitaire, genre « Ah, c'est trop super de squatter. »« Ah, c'est trop super, faut faire comme ci, faut faire comme ça. » Non, au contraire, c'est plutôt... par exemple, il y a un chapitre sur l'Espagne, sur les mérites du changement, qui passe au crible. Qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant 10 ans? Qu'est-ce que ça a donné? Quel lien avec les mouvements sociaux? Et qui permet... Alors, effectivement, la personne est critique. Donc, elle n'a pas, pas une visée de dire juste « Alors voilà, il y a ça, et puis là, il y a ça. » Elle est critique. Mais elle apporte suffisamment d'éléments pour que les personnes puissent se dire « Bon, OK, ouais, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, j'ai des éléments pour me dire « C'est ça qui s'est passé en Espagne. » Voilà. Donc, on a gardé quand même ça, ce qui me semble le plus important dans la question pour moi de scientifique. Le rapport aux faits. Et on a vraiment insisté dans la coordination avec qu'il y ait un rapport aux faits qui soit sérieux, qui soit exigeant.
Alors moi, je n'ai pas non plus lu encore, mais j'ai quand même feuilleté un peu et j'aurais aimé peut-être que vous reveniez sur des choix qui m'ont paru intéressants et qui doivent être sans doute motivés par, alors sans doute l'hétérogénéité dont tu viens de parler, Américo, des choix de présentation, des choix y compris de représentation de ces espaces, la photo, le dessin, etc. Et moi, quelque chose qui m'a frappée dans la forme, donc vraiment être sur la forme et comment cette forme, elle exprime aussi d'autres choses. Ce livre-là ne peut pas arriver à cette forme-là si vous n'avez pas fait des choix un peu précis. De discuter, de voir un petit peu quel est le lien qui se fait entre ces choix formels d'édition et ce que ça amène comme type de lecture.
Je peux essayer de répondre à cette question. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, il y a eu un certain nombre de bien sûr de choix et un assez gros effort porté sur la question de l'iconographie. Et donc, de dire que ce n'était pas que du texte. Donc, on était quatre dans ce collectif de coordination. Et il y a Ariella qui, en particulier, a fait beaucoup d'efforts, puisqu'elle s'est chargée de toute la partie iconographique de l'ouvrage. De rentrer en contact souvent avec les auteurs, autrices du livre en disant bah, « Tiens, on cherche à illustrer les choses. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer qui te plaise, etc., qui fonctionne, qui raconte quelque chose ?» Je vais revenir ensuite sur un peu, nous, les idées qu'on avait derrière. Parfois, y avait des idées, mais il n'y avait pas de proposition en face. C'est-à-dire qu'il y a certains chapitres qui sont venus avec des personnes qui avaient déjà des photos de leur lutte ou de la lutte de laquelle ils parlaient, etc., mais qui n'avaient pas d'iconographie à proposer. Donc, il a fallu faire des recherches, trouver... des propositions qui puissent coller avec ces objectifs-là. Derrière, faire un petit travail de légendage, un travail aussi de traitement des images, parce que mine de rien, l'ouvrage est imprimé en noir et blanc. Donc ça a été ensuite repris par la maquettiste, évidemment, pour que ça rende correctement. Je crois qu'on est plutôt heureux de ce que ça rend, c'est-à-dire que ça ne fait pas choix par défaut pour que ça coûte moins cher. C'est aussi une question hein, aujourd'hui, mais ça fait des noirs et blancs qui rendent bien. Et donc ensuite, il y avait vraiment cette volonté dès le départ. Alors, je dirais que pour moi, il y a deux choses assez importantes à dire autour. Alors, c'est beaucoup de la photographie, d'une part, et puis il y a les cahiers qui sont avec du dessin, d'autre part. Donc là, il y avait déjà ce choix d'avoir un peu deux formes, donc de bien distinguer ces cahiers, donc ces cahiers qui sont les endroits où on va illustrer un peu le mécanisme de la conception de l'urbain par les professionnels de la ville en disant il faut avoir quelques billes, alors on va parler... de la participation, on va parler des questions des temporalités, on va essayer de distinguer qui sont ces acteurs, quels sont leurs rôles, on va parler un peu là-dedans du rapport public-privé. Ces cahiers, ils ont un statut un peu particulier parce qu'eux, ils ne parlent pas de lutte, ils parlent plutôt de comment le pouvoir actuel construit la ville, en disant que c'est important aussi d'avoir des choses à donner là-dedans. Ils sont aussi liés à un bréviaire. Et ces cahiers, ils reprennent en fait un travail esthétique qui est une illustration. Et ça, ça vient directement en lien avec cette commande qu'on a passée à Victor, qui est ce poster qui vient avec le livre. Hein. Il y a le poster est dans chaque ouvrage, on a deux. Lui a été de dire « Est-ce que tu peux nous mettre en dessin toute cette production de la ville ?» Alors, c'était hyper intéressant à faire comme commande, notamment, je pense que tu avais peut-être un peu plus d'expérience, mais je ne suis pas sûr, mais les quatre qu'on était, finalement, on n'avait jamais fait ça. C'est-à-dire demander à quelqu'un de m'écrire un texte et puis être capable de juger à la fin si ça fonctionne, ça, je sais à peu près faire, on me paye pour ça, et ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète énormément, même si c'est beaucoup de travail quand même d'accompagner tout ça. Mais à un moment, faire une demande un peu abstraite en disant on veut un truc qui représente la production de l'espace de manière générique, etc. Et donc, on va avoir à la fin ce rendu-là, qui est à la fois, on voit que ça parle de ville, mais ce n'est pas un rendu ultra réaliste. D'abord, parce que montrer des architectes au travail, c'est un peu chiant hein, quand même. Mais on va voir des documents qui circulent parce qu'il y a beaucoup de travail documentaire. On va y voir des personnes en train de travailler, on va y voir de la bétonnerie, on va y voir, etc. Et puis, au même temps, dans ce poster, on va voir la ville qui bouge, la ville qui se révolte, etc. Et ça, ça sert à venir illustrer aussi les cahiers, en particulier avec des détails qui sont issus et qui ont un lien direct du propos qui va à côté. Donc il y avait ce travail-là d'un côté qui est présent dès le départ, ou quasiment immédiatement à l'origine du livre. Je me rappelle la première rencontre, on commence à essayer de mettre un écheveau en place en disant on aimerait bien que ça ressemble à ça dans l'idée, hein, purement. Il y avait déjà cette idée qui est le poster. Et il y avait déjà cette idée aussi qui est de l'iconographie. Dès le départ, Ariella, elle était aussi venue contribuer pour ça, qui soit plutôt de la photographie. Avec l'idée, bah, on a envie de montrer des choses. D'abord parce que, bon, bah, à un moment, on parle d'espace. On parle d'espace au sens espace matériel à cet endroit-là. Donc, c'est quand même des choses qu'on peut voir, qu'on veut voir. Et avec deux idées derrière. D'abord, on parle de lutte. Donc, on voulait qu'il y ait des tronches, entre guillemets, qu'il y ait des personnes. Donc, en fait, on voit beaucoup de personnes en train de lutter, en train de fabriquer des choses, en train de jardiner, etc. En train de se réunir aussi. On voulait incarner ça, que ce soit visible. C'est-à-dire que le risque sur un bouquin sur la ville, c'est qu'on aurait pu avoir des illustrations, des très belles photos d'architecture. Puis on dit, bah tiens, c'est un chapitre qui parle de Roubaix, on met la plus belle photo qu'on puisse avoir de vieilles briques roubaisiennes, etc. Ça, ça ne nous intéressait pas beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on avait envie de transmettre. On trouvait que l'iconographie, si elle a un sens, il faut qu'elle raconte quelque chose, il faut qu'elle amène quelque chose en plus. Elle n'est pas purement illustrative, sans aucune péjoration de l'illustration, mais il y a quand même cette question-là de dire ça amène du sens, ça raconte des trucs en plus. Il y a des photographies dans l'ouvrage qui sont, je pense, assez marquantes aussi sur ce qu'elles disent en elles-mêmes, ce qu'elles rapportent du propos. Donc la première chose, c'était cette chose-là, de dire on veut qu'il y ait des gens, en fait, visibles. Et il y avait une seconde idée que je voulais mettre en avant et je l'ai complètement oubliée. Voilà. Je me suis perdu. Voilà. Et ça donne quelque chose à la fin où aussi il y a de la singularité dans ces photographies. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est quasiment abstrait. Je prends l'exemple sur l'automobile. Bon, l'illustration, c'est un chapitre qui s'appelle « Défaire la domination automobile ». L'illustration, c'est un Citroën C15, donc cette vieille camionnette qu'on voit partout dans les montagnes, qui est en train de moisir dans un champ avec la végétation qui pousse à travers. Donc c'est un peu une espèce de truc programmatique. On va avoir d'autres illustrations qui vont être beaucoup plus une photo de manif, une belle photo de manif. Ça raconte un truc, c'est vivant, ça donne de la joie. Et si la seconde chose que je voulais dire, dont je me rappelle maintenant, c'est qu'il y a aussi un combat de l'imaginaire qui est amené là-dedans. C'est-à-dire, une des choses auxquelles on veut aussi contribuer, c'est dire il y a un imaginaire de ce qu'est-ce que des espaces autres peuvent être, donc des espaces peut-être un petit peu qui échapperaient un minima au règne de la marchandise pourraient être. Et il y a des jolies choses. Et ce combat, en plus esthétique, ce n'est pas seulement le nôtre, parce que c'est aussi celui des pouvoirs publics, c'est aussi celui des tenants du capital qui sont capables de dire « on veut vos cabanons dégueulasses, là, ça dégage. Les trucs de récupérateur d'eau, ce n'est pas bon, on va faire effacer vos tags. » Enfin, il y a tout ce truc de travail sur l'imaginaire. Et donc, il y a un peu... Alors, c'est une réponse microscopique enfermée dans un livre, mais il y a quand même ce truc de dire « en fait, on espère aussi montrer des choses qui sont jolies et que ça contribue en fait aussi à cet imaginaire-là. » Moi, par exemple, si on reprend cet exemple des jardins, en fait, je les trouve beaux, ces cabanons, quoi. Il se passe quelque chose, il y a des choses qui se racontent. Quand on voit des personnes qui se réunissent, qui sont nombreuses, etc., il y a des choses qui se racontent là-dedans, donc c'était un peu l'idée, quoi.
Moi, c'est une question tout à fait formelle. Je voulais savoir, le collectif Asphalte, du coup, il existe depuis quand? Il s'est formé autour de ce livre? C'est quoi, cette chose?
Ce collectif n'existe pas.
C'est une signature collective, en fait. On a eu envie qu'il y ait une signature collective en front. Donc, c'est vraiment la constitution. Mais on ne se connaît même pas. Toutes les personnes qui écrivent dans ce livre, il pourrait y en avoir dans cette pièce. Je ne les connaîtrais pas. On s'est échangé des mails. On a fait, on a construit ce truc-là. Et on a voulu mettre un nom collectif parce que ça n'a pas de sens de mettre tout le temps des auteurs, en fait, de ramener à ça. Alors même si malheureusement, finalement, dans ces présentations, mais je pense qu'on est encore à un moment où on fait circuler le livre, quand on le fait exister. Mais j'espère qu'à un autre moment, bon, c'est un peu la proposition demain, c'est qu'on dilue cette question. Que l'important, c'est de discuter ce qu'il y a dans le livre, quoi. Et le collectif Asphalt, c'était un peu cette volonté-là. En tout cas, moi je vois ça, peut-être vous voyez différemment. Comment tu l'as vu, toi?
Mais non, mais moi je l'ai vu. Alors, ok, vous vous foutez de moi. Mais je me suis dit, c'est bien que ce soit collectif Asphalt parce que sinon, c'est toujours la même injustice de ceux qui ont des noms de famille qui commencent par A, qui seront vus, donc notamment Mathieu Adam. Et en fait, ça aurait été le bouquin de Mathieu Adam. Donc, c'est pas mal qu'on ait un nom collectif, sinon, il aurait encore écrit un bouquin. Ça suffit.
Et juste un truc, il y a un ours à la fin du livre qui récapitule donc tous les noms présents dans le livre. Et c'était aussi important pour nous, je réponds en partie aussi à la question précédente, dans lequel figurent les illustrateurs et illustratrices aussi. C'est pas uniquement les personnes qui ont écrit qui sont mentionnées, au même titre en fait. Alors la question était, combien de temps on a mis à constituer l'ouvrage? Au départ vous étiez deux, Antonio et Américo, qui avaient eu cette idée. Ça c'était quoi? C'était... printemps 2020, 21, voilà. Ensuite, ils sont venus Magrip et moi et Ariella pour contribuer le collectif d'animation. Et donc, on a vraiment dû lancer la machine à ce moment-là, mais ça fait 2 ans et demi, quoi, à peu près.
En octobre 2021.
Ouais, la réalité de la chose, c'est octobre 2021, où là, on commence à contacter des autrices auteurs. Donc ça fait 2 ans en fait entre le moment où on envoie le premier mail en mode salut, on veut faire ça, est-ce que ça te dirait de nous écrire un chapitre sur ce sujet précis que tu maîtrises si bien car tu luttes dessus depuis une décennie, voilà, ça a mis 2 ans, ce qui est en fait relativement rapide, mine de rien, je crois. Non, on a grand hâte quand même d'avoir des retours, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas la peine. Enfin, pour l'instant, c'est un peu prématuré d'attendre des critiques acérées, mais on a très envie d'avoir des critiques acérées et des dithyrambes, hein, parce qu'on aime bien les fleurs aussi, quand même, sur cet ouvrage. Mais voilà, l'idée, c'est quand même... tout ça est un peu un vœu pieux, mais c'est que cette chose existe, qu'elle puisse circuler, être déchirée, lue collectivement, appropriée, détestée. C'est quand même un peu l'objectif, ouais.
Bah, s'il n'y a toujours pas de questions, n'hésitez pas à vous manifester, c'est encore temps. Je propose qu'on s'arrête là et on peut continuer à échanger de façon plus informelle. Merci beaucoup à Leïla, Américo et Mathieu d'être venus présenter le livre. Et merci à toutes d'être venues. Et puis bonne soirée, à bientôt. Merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venu ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.